Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez l'émission Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume. Mon nom est Jim Boulay, je suis en compagnie de Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau, bonjour!
Hello, hello!
Bonjour!
Et l'hiver, le froid, la neige, vous savez, ça donne le goût de s'évader et ça tombe bien parce que dans la deuxième demi-heure de cette émission, on vous présentera chacun l'univers de films fantastiques dans lequel on aimerait fuir. Vivre, je veux dire. Les vacances s'en viennent, ce sera le temps rêvé de regarder une saga complète ou pour faire un marathon. Mélina nous parlera principalement de l'univers de Poudlard et d'Harry Potter, mais surtout de son amour pour Ron Wesley. Ne manquez pas ça! Et dans quelques minutes, on critiquera pour vous trois films de Square, Coco et DPJ. Mais comme on dit, avant de se tremper le gros orteil dans le feu de l'action, à qui c'est très bien d'attendre? Quoi de 10, Louis?
Je
me suis essayé la semaine passée avec 8, je me suis dit peut-être 10.
Ces blagues commencent à prendre une proportion de plus en plus...
De qualité, hein?
C'est pas dans cette direction-là que je m'en irais, pas en tout. Moi, cette semaine, encore une fois, j'envoie un message à la Maison du cinéma. Là, il y a un film en ce moment qui détient le record qui n'a pas été tenu depuis Toy Story 2. Qui est d'avoir 100% sur Rotten Tomatoes pour les deux premières semaines de sa sortie. On parle ici de Lady Bird, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui met en vedette Saoirse Ronan, qui est apparemment un des meilleurs films sortis en 2017 et même de la décennie. Et la Maison du cinéma n'a pas l'intention de le présenter.
J'ai vu sur des commentaires Facebook de la Maison du cinéma qu'il allait le sortir fin décembre, début janvier.
Ah!
Peut-être qu'il t'a entendu, Louis.
Peut-être que mon appel est entendu. Bref, je continue.
Ou il est en vin.
Ou en bière.
Je peux avoir une coupe de vin?
Vous êtes dans une thématique très, très alcoolique, chers amis. Donc, merci pour cet éditorial, Louis. Et Mélina, de ton côté?
Moi, de mon côté, j'ai commencé cette semaine à écouter la série Netflix... Orange is the New Black, donc en français...
Boy.
Ça fait quand même longtemps que c'est sorti.
Et puis en 2009?
C'est sorti en 2013, en fait. Puis j'ai commencé, puis je trippe vraiment beaucoup. J'ai presque fini la première saison, c'est vraiment bon. Si vous avez la chance de voir ça, déjà que j'étais une fan de Jenji Kwan, parce que, bon, sa série Weeds est une série que je trouve très drôle et très bien faite. Donc, c'est vraiment le fun de l'avoir dans une nouvelle série qui est inspirée d'un livre, en fait, qui est basé sur une histoire vraie d'une femme, Piper Kerman, qui a vraiment passé un an dans une prison de sécurité minimale pour femmes.
Eh bien, et puis, on m'a dit que cette série faisait faire des rêves très étranges. Enfin, bref, qui sait? De mon côté, on a parlé de Jim Carrey la semaine passée. Ben, ça tombe bien. J'ai regardé un documentaire sur lui, mais plus précisément sur son interprétation et sa relation presque spirituelle avec le comédien feu Andy Kaufman. C'est une entrevue contemporaine avec Jim Carrey qui nous explique à quel point la frontière entre le personnage et le monde réel est mince, parfois inexistante, quand il interprète un personnage, un rôle. Et l'ensemble des images est du footage pris de façon indépendante et qui suit Jim Carrey tout au long de ses personnifications lors du tournage du film « L'homme sur la lune »,« Man on the Moon » de 1999. Sur Andy Kaufman. Mais la caméra le suit aussi dans sa loge, dans la roulotte des maquilleurs, dans la rue, un peu partout finalement. Et il ne quitte jamais son rôle. Et c'est ça qui est particulier. Le réalisateur est découragé. Il ne sait plus comment prendre et parler à Jim Carrey parce qu'il est convaincu d'être Andy Kaufman lui-même ou son second personnage. C'est ce qu'on pourrait appeler un méta-film. Et ça aussi, Louis, 100% sur Rotten, encore aujourd'hui. Regardez ça, vous allez rire, pour vrai, c'est extrêmement
c'est
drôle.
C'est excellent.
Donc, on écoute vos critiques dans quelques instants. En attendant, déneigez votre entrée de popcorn avant que la charrue mette trop de sel, parce que c'est Cinébrunch! Donc, Louis, tu as été voir le film The Square.
Oui, c'est un film suédois qui a remporté la Palme d'Or du Festival de films de Cannes 2017. La description, c'est le long métrage brosse le portrait de Christian, un père divorcé aimant qui travaille comme conservateur dans un musée d'art contemporain. Christian prépare sa prochaine exposition, intitulée The Square, qui doit inciter les visiteurs à l'altruisme. Mais les choses ne se déroulent pas comme il l'avait prévu. Là, je m'excuse d'avance pour le trailer qui s'en vient. Il n'y a pas de version française. Je l'ai moi-même vu le film en version suédoise sous-titrée français. Fait que Jim, pars-moi ça.
Welcome to the jungle. Soon you will be confronted by a wild animal. As you all know, the hunting instinct is triggered by weakness. If you show fear, the animal will hunt you down. But if you remain perfectly still, the animal might not notice you, and you can hide in the herd, safe in the knowledge that someone else will be the prey.
Ben, c'était...
C'est ça. Ça, là, malheureusement, c'est pas la version la plus descriptive du film, mais les morceaux descriptifs du film dans la bande-annonce étaient en suédois.
Ah, d'accord. Donc, mais je comprends l'intérêt de... Les sous-titres à la radio, ça marche pas très bien.
Donc... on a vu mieux, puis on n'est pas encore diffusé vidéo.
Ouais. Heureusement.
Oui, heureusement.
C'est pas clair. Je j'irais peut-être pas ça de me voir la bête à la TV.
Bon. Mais bref. On en reparlera.
Oui, c'est ça. C'est un film qui est dirigé par Ruben Östlund, qui aussi était à la tête de Force Majeure, qui est sorti en 2014, avec amateur Claire Spang, qui joue le rôle de Christian, et Elisabeth Moss, oui, elle est partout, qui joue le rôle d'une reporter américaine weird. Pourquoi weird? Honnêtement, ce film-là, je t'allais voir, moi j'ai juste vu la bande-annonce et je pense que ça vaut la peine d'aller sur notre Facebook pour la voir parce que c'est vraiment... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou comment on s'est rendu là. C'est une espèce de cringe comedy où est-ce que on explore le sens de l'art mais en même temps l'idée de l'altruisme. Parce que toute la prémisse du film... C'est une nouvelle exposition de Square qui est une représentation, est un espèce d'endroit où tout le monde est égaux. Fait que pour représenter ça, c'est un carré de LED, sur le sol qui éclaire un carré parfait. Puis là, le personnage principal doit vendre ça, puis doit vendre l'espèce de théorie derrière ça qui est une exposition artistique. Visant à exposer les rapports interpersonnels, l'altruisme, comment est-ce que les milieux changent, comment on agit. Alors qu'en même temps, sa vie est en train de prendre le bord suite à un incident où il se fait voler son cellulaire dans la rue par un pickpocket vraiment efficace.
Ah.
Puis pour se venger, il va déposer une lettre dans tous les logements du bloc appartement où se trouve son cellulaire aujourd'hui. Oui, mais fait que ça part de là. Puis c'est comme deux films en même temps où est-ce que on suit le même personnage où ça reste Christian, mais c'est Christian qui, dans la vie de tous les jours, est conservateur d'un musée, il est très puissant, c'est un gros musée de Stockholm, puis qui doit justifier un peu ses positions, son comment, qui font une campagne de pub qui est finalement absolument horrible avec un enfant qui explose à l'écran, mais aussi en même temps, c'est lui qui doit... Il y a comme tous les aspects weird, surtout autour d'Elisabeth Moss, justement, qui joue une journaliste américaine un peu naïve, qui essaye de le séduire, mais pas vraiment, mais... C'était excellent. J'ai adoré du début à la fin ce film-là, parce qu'il y a pas un moment où tu sais qu'est-ce qui s'en vient. C'est pas...
Okay, c'est surprenant tout le temps.
Ben, en fait, c'est que c'est tellement loin des conventions, c'est tellement loin de ce qui est attendu pour ce genre de film-là, où est-ce que c'était pas clair si c'était une comédie, un drame, un film existentialiste. C'est vraiment tout ça en même temps, avec en background des œuvres artistiques qui ont pas d'allure parce que le film lui-même fait dépasser la réalité de la fiction. On a... l'espèce de truc qui était narré pendant la bande-annonce qu'on vient d'entendre à propos d'un animal dans la jungle, c'est une pièce de performance art, où est-ce qu'il y a un homme qui se prend pour un singe jusqu'à s'en rendre à la folie.
C'est le monsieur qu'on voit monter sur les tables et tout ça, là.
Oui, exactement. Okay.
Parce que moi, je me disais, c'est une œuvre contemporaine, là, c'est ça. Là.
Oui,
la personne est une œuvre.
C'est du performance art qui appelle. Okay. Oui, effectivement, mais... Ce qui aurait pu juste être intéressant puis weird en soi est amené à l'extrême et amené jusqu'à la folie. Je révélerai rien pour ne pas gâcher le plaisir, mais c'est vraiment amené de manière intéressante, c'est vraiment amené jusqu'à un extrême qui est le fun. Bref, à aucun moment où est-ce que tu regardes ce film-là, tu t'ennuies. À chaque fois où tu dis « Ah, on s'en va dans une direction peu intéressante », moi, j'ai vraiment... Ce qui m'a marqué, c'est un moment où il fait une conférence de presse, il y a Christian qui est en train d'expliquer ce qui va se passer, puis il passe le micro au chef pour expliquer le buffet qui est préparé pour l'ouverture de l'exposition. Et là, le chef commence à décrire le menu et les gens commencent à y aller.
À vouloir sortir, oui.
Et là, hurle, fesse et demande aux gens de rester là. Fini d'expliquer son menu pour que les gens puissent en aller ensuite. À chaque fois, c'est ça. Un solide 8.5 sur 10.
OK, ouais.
Parce que ça reste quand même un peu plus dur d'accès si on n'est pas attiré par les codes du théâtre ou de l'art contemporain. Également, juste parce que les changements de langue à l'occasion, ça peut être compliqué. Ça passe de l'anglais au suédois assez souvent.
Okay.
C'est quand même dur à suivre aussi avec les sous-titres avec ça.
Et il n'y a pas eu de traduction française de ce film-là.
Zéro, puis une barre.
Mais pas du tout dans le monde, là. Pas juste ici.
Là. Non, même dans les cinémas français en ce moment, passe la version que j'ai vue ici. Okay, c'est-à-dire la version suédoise avec des sous-titres français.
Eh bien, ça a l'air fort intéressant.
Ça valait vraiment la peine.
Merci, Louis. Mélina, tu es restée dans l'esprit du brunch et tu es allée voir Coco, comme les œufs.
Ah oui, je ne l'avais pas compris, mais...
Ok, oui. Bon, un gars s'essaye.
Coco, oui, je suis allée voir Coco. Donc, c'est un film d'animation qui a été produit par Pixar, distribué par Disney. C'était co-réalisé par Lee Unkrick, c'est son idée originale. C'est lui qui a co-réalisé aussi Toy Story 2, Histoire de jouets 2. Histoire de jouets 3, Trouver Nemo, Monster Inc.
Quand même des pas pires noms de
ouais, c'est ça, des gros, là.
Des gros noms, je vous dirais. Et Adrienne Molina, qui a fait, entre autres, le scénario. Puis, ce film-là est sorti le 20 octobre au Mexique, en fait, dans un festival de films. Puis ensuite, il est sorti la semaine suivante au cinéma. C'est le film qui a rapporté le plus dans l'histoire du Mexique à ce jour. La sortie canadienne, États-Unis et ailleurs dans le monde a été sortie pour la fin de semaine de Thanksgiving, mais la version américaine, là, pas notre action de grâce à nous, mais leur action de grâce
oui,
à eux.
Oui, le
donc, il vient de sortir, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il est sorti sa fin de semaine.
OK.
C'est un film qui est très apprécié par la critique, qui a en ce moment un score de 96% sur Rotten Tomatoes. Donc, c'est un film qui réussit très bien, en fait. Puis je vous dirais que j'avais vraiment des attentes très hautes face à ce film-là. Puis j'ai été un peu déçue.
Ah.
Mais c'est un très bon film quand même. Mais je pense que j'avais juste
trop d'attentes.
C'est ça, exactement. Donc l'histoire, c'est le film de Miguel qui rêve de devenir un musicien accompli. Malgré le fait que sa famille a banni la musique depuis des générations, il est désespéré de prouver son talent. Et il se retrouve donc dans le monde coloré et éblouissant des morts suite à une mystérieuse série d'événements. Et sur son chemin, il va rencontrer Hector et ensemble, ils vont embarquer dans une aventure extraordinaire afin de découvrir la vraie histoire de la famille de Miguel. Donc avant d'en dire plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang.
Moi, je serai musicien!
Les musiciens sont égoïstes et irresponsables.
On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille.
Pas de musique!
Pas de musique!
Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique.
Dia de los Muertos a commencé.
Ce soir, on reste en famille.
Tes ancêtres seront toujours là pour te guider.
Miguel?
Maman Imelda! Toujours aussi belle!
Qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Mais alors, c'est pas un rêve? Vous êtes tous vraiment là?
Bienvenue! Rien à déclarer?
Eh bien, comment dire? Si.
C'est l'enfant vivant!
Regarde ta main!
Je deviens un squelette!
Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil.
Ça a l'air musical.
C'est très musical, c'est très beau, c'est très coloré, c'est visuellement excellent. C'est un bel hommage, je vous dirais, au Mexique. et à la culture latine. Ça m'a fait triper ce côté-là. Je vous dirais les thèmes vraiment beaucoup, la famille, la mort.
Mais la fête des morts, c'est une fête qui est très fêtée,
oui,
c'est ça?
Oui, exactement, ouais, ça. Qui est très, très fêtée. Ça se trouve être le 1er novembre, le lendemain de l'Halloween.
Okay, okay.
Donc, le film est vraiment sorti au Mexique pour cette journée-là. Donc, c'est un bel hommage aussi aux traditions culturelles du Mexique. Donc, pour cela, c'est excellent. Pour ma part, c'est ça, comme je vous disais, ben j'ai été, le film est très bon. Je veux pas dire que le film est pas bon, le film est très bon. J'ai quelques petits bémols cependant j'ai quelques petits bémols à dire par rapport à ce film là premièrement, c'est un film qui est quand même long, il dure 1h50, et ça c'est sans compter le fameux court-métrage qui dure 20 minutes avant le film, à propos de Olaf et d'Elsa et d'Anna et de la Reine des Neiges. C'est un 20 minutes assez long si on ajoute à ça les bandes-annonces, dépendant des cinémas.
Okay.
On peut rester facilement au cinéma, donc 2h15, c'est fait pour des enfants, on s'entend, donc je pense pas que c'est très...
C'est trop long.
C'est trop long pour des enfants.
Okay.
Donc, outre ça, comme je vous disais, c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. C'est complet, c'est scénaristiquement développé, c'est juste vraiment très beau. Comme je vous disais, c'est juste, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est le fameux court-métrage de Olaf qui dure 20 minutes au début du film, où ça chante beaucoup, beaucoup de chansons. C'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, je sais que beaucoup de gens ont parlé contre ce court-métrage-là. À la fin, c'est juste que, OK, on peut-tu arriver au film puis présenter le film? Si on se souvient, L'Art de glace, il y avait des courts-métrages avant du petit écureuil, là.
Oui, oui, oui.
Mais ça durait pas 20 minutes. Ça durait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Pas 20 minutes.
Non, en effet, mais en réalité, la tradition des shorts avant les films de Pixar, ça remonte à vraiment longtemps.
Mm-hmm.
Puis effectivement, normalement, c'est des 5, 6, 7 minutes. C'est toujours des trucs super intéressants qui sont des explorations du genre, du thème, qui sont toujours un peu plus explorateurs que le reste des films de Pixar. Mais ici, Olaf's Frozen Adventure, c'est en fait un spécial à la télé qui a été enlevé à la dernière minute et qui a été balancé là sans vraiment de bonne raison. Et en ce moment, la plupart des critiques s'entendent avec toi que c'est un excellent film et disent toutes ou à peu près que ce short-là mérite de finir aux oubliettes parce qu'il y a vraiment de la scrap.
Oh oui, oui.
Ah, bon,
oui, puis c'est long surtout. C'est très long.
Ouais, c'est 22 minutes le film... d'horreur.
Ouais, ça rend le film plus lourd, je vous dirais.
Tout ça pour setup Frozen 2.
Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est un exactement coup de publicité pour le futur Frozen, là.
La Reine des Neiges. Mais si on exclut le fameux court-métrage de Olaf du film, je vous dirais que c'est un film qui mérite facilement un 8 sur 10 pour moi. Je pense que mes attentes étaient vraiment très hautes par rapport à ce film-là. Mais l'histoire est bonne, le film est bon, allez voir ça, ça vaut la peine. Si vous avez des enfants, écoutez, c'est sûr que c'est le fun d'amener vos enfants, mais pensez que 20 minutes plus 1h50 plus des bandes-annonces, ça finit par faire longtemps pour les petits enfants qui vont au cinéma. Là.
Eh bien, c'est noté. Surtout à 21h45 le soir, ça finit tard pas mal.
Oui, j'avais la salle à moi tout seul.
Merci beaucoup, Mélina.
Merci. Dis ça!
Okay. Okay, okay. Là, arrête, c'est dans la peine du monde, arrête.
C'est ça qu'elle veut, me les enlever, là, pour me faire chier!
Hey. Arrête d'être énervé,
hey,
là!
Hey, ils le pouvoir,
ils ont le pouvoir de partout!
S'il faut m'en battre.
Vraiment, dis, c'est un dépotoir pour jeunes, t'es des pigies.
C'est pas d'abandonner. Au contraire, moi, je pense que c'est d'être capable de montrer que cet enfant-là, vous l'avez à cœur, puis vous souhaitez ce qui est le mieux pour lui. Puis vous reconnaissez présentement, c'est pas chez vous.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du film documentaire DPJ, un film de Guillaume Sylvestre.
Hey, ça n'a pas l'air, Jojo.
C'est pas... C'est quelque chose.
On est à un extrême de Coco, là, vraiment.
Absolument, absolument. Je suis content qu'on ait commencé par Coco. Ça a placé la table.
Oui.
Ou pas. Donc, ça, c'est Guillaume Sylvestre qui a réalisé le film. Et il a dit en entrevue qu'il avait travaillé assez dur pour pouvoir avoir accès aux coulisses de la DPJ. Bon, la caméra est aux premières loges de la réalité des familles, mais surtout des employés de la DPJ. Il n'y a pas d'acteur, pas de musique, pas de narration, juste une caméra et des intervenants, des familles et des enfants. Le film, comme tel, suit un certain nombre d'enfants, de bébés à 17 ans, des parents émotifs, parfois à bout de nerfs, des intervenants, et croyez-moi, ça ne donne pas du tout le goût d'être intervenant. Ça doit être un travail assez difficile. Est-ce que c'est l'apologie de la DPJ? Parce qu'on est habitué à des discours où la DPJ et les centres jeunesse sont souvent considérés comme une cause de problèmes et de souffrances, un système complexe, une grosse organisation rigide et insensible. Ben, je peux pas vous dire, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit l'autre côté de la médaille. Au début, ça m'a fait penser un peu au film Catimini, un film québécois qui est sorti en 2013, réalisé par Nathalie Saint-Pierre, qui se voulait peut-être plus un film sur les failles et les difficultés que vivent les enfants de la DPJ dans les familles d'accueil, qui se font violer, tout ça. Et ce film-là m'avait pas mal marqué. Mais là, c'est vraiment autre chose. On est plutôt dans le témoignage de ce que vivent les intervenants de la DPJ. La caméra est témoin des échanges entre les intervenants, les travailleurs sociaux, les parents, les enfants. Mais on voit aussi les décisions, les rencontres entre les intervenants, la hiérarchie, tout ça. Et c'est vraiment un documentaire dans lequel on est témoin de cette réalité-là. Et c'est extrêmement difficile. Et ils vont aller jusqu'à aller chez des gens pour montrer aux parents comment enlever des poux dans la tête des enfants. Tu sais, c'est pas juste signer de la paperasse puis tout ça là.
Ah, mais moi j'avais vu la bande annonce là, juste la bande annonce, oui. Lorsque j'avais été au cinéma récemment, puis j'étais resté marqué là, j'avais pas eu de plaisir à regarder ça pantoute.
Non, mais en tout cas je vais en parler un peu après, mais c'est pas si pire qu'on pourrait s'attendre. C'est encore là, okay. C'est une bonne nouvelle. C'est ça. Dans ce documentaire-là, on est témoin de la réalité des travailleurs de la DPJ. C'est extrêmement difficile. On a le cœur déchiré de voir un intervenant expliquer à une mère que l'adoption est la meilleure chose qu'elle puisse faire pour son enfant. C'est une visite de la réalité crue et inaltérée des familles. Au niveau technique, l'absence de musique donne au film tout son réalisme et son intégrité. On sent vraiment une volonté de demeurer objectif et de ne pas jouer avec les émotions du spectateur, ce qui est pour moi une chose très positive. Ça aurait été facile de jouer du violon là-dedans. Le mix sonore est un petit peu botché, par contre. Je pense qu'on aurait pu investir un peu plus à ce niveau-là. Sinon, c'est très réussi. La composition est souvent difficile parce que la caméra doit montrer l'action, mais tout en gardant l'anonymité. Donc, beaucoup de flou et de témoignages vus de dos. Les gens, on voit des gros plans sur les mains, tout ça. Les gens semblent avoir oublié que la caméra était là. Ça augmente encore plus le réalisme du film. Et ça, c'est vraiment bien. Mais c'est ça. Si la quête de la vérité fait le meilleur cinéma, ben ce film-là mérite un bon 8,5 sur 10. Malgré la lourdeur apparente, la charge émotionnelle et la vérité qu'on voudrait ne pas connaître, parfois, on réalise au long du film qu'il n'y a pas juste des mauvais moments. Alors, ça va peut-être en rassurer quelques-uns. Et que toute chose est relative aussi. C'est pas, on s'entend, là, je n'ai pas en train de vous dire que c'est un feel-good movie, là, mais c'est plus accessible qu'on pourrait le croire, et surtout plus accessible que la bande-annonce, parce que la bande-annonce est un peu une concentration d'un moment, en tout cas, particulièrement intense. Cela dit, c'est lourd, c'est difficile à voir quand même. Et je pense que c'est presque un devoir de citoyen d'aller voir ce film-là. Jusqu'à un certain point, juste ne serait-ce que pour comprendre et démystifier la réalité de la DPJ et de ce que fait cette organisation-là, puis d'essayer de sortir un peu, puis d'avoir une vision un petit peu plus neutre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le 6 décembre, le réalisateur Guillaume Sylvestre va être à la Maison du cinéma pour échanger après la projection du film DPJ. Ça pourrait être une bonne opportunité si ça vous intéresse aussi d'en savoir plus sur ce film et son parcours.
Tu dirais que c'est quoi le public cible pour ce film-là? On vise qui avec ça?
Moi, je vois ça comme un film social, donc je pense que ça vise à montrer une zone que personne n'a jamais vue du fonctionnement de ça. Après ça, ça vise qui? Ben, c'est certain que les gens qui sont des enfants adoptés ou de DPJ ou de familles d'accueil vont probablement vouloir voir ce film-là, ne serait-ce que pour avoir une meilleure perception de ce qui se passe dans les coulisses de tout ça. Sinon, je pense que c'est un film qui s'adresse à n'importe qui s'intéresse à comment le système est fait, puis ça vaut la peine d'être vu. C'est long quand même, c'est un bon 2 heures, là. C'est pas une courte réjouissance, c'est assez lourd.
Je trouve ça le fun qu'on ait accès à un documentaire comme ça, qu'on puisse voir ça, parce que...
Oui, c'est fait, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une volonté aussi de la DPJ, malgré la difficulté de Guillaume Sylvestre d'aller filmer ça, il y avait une volonté aussi de s'ouvrir un peu au public et de montrer ce qu'ils font, parce qu'ils ne veulent pas sont la victime d'un paquet de... Je dis pas que c'est pas...
médisance.
Ouais, c'est ça. Disons qu'ils n'ont pas une très bonne réputation. Donc voilà, c'était donc le film DPJ.
Merci, Jim.
Et sur Netflix, j'ai commencé à regarder la série Peaky Blinders. C'est une série de la BBC, mais disponible sur Netflix. Ça se passe en 1919 à Birmingham. Les Peaky Blinders, c'est un gang local mêlé à toutes sortes de pratiques croches, de la contrebande aller jusqu'au meurtre. Birmingham est une ville en plein air industriel et c'est le début d'un mouvement communiste fort, mais aussi de l'IRA. On sent aussi bien encore les traumatismes de la Première Guerre mondiale qui vient de se terminer. Franchement, c'est très bon. C'est assez court. 4 saisons de 6 épisodes chacun. Si vous aimez cette époque-là et que vous voulez en savoir plus, je vous recommande cette série Peaky Blinders sur Netflix. Dans une dizaine de minutes, on vous présentera notre univers fantastique préféré. Mais avant de pouvoir s'exprimer ainsi, place aux femmes avec Mélina, qui va nous présenter et nous parler d'Harry Potter.
Oui, voilà, donc j'ai choisi de vous présenter mon univers fantastique préféré, celui de Harry Potter, qui est un univers qui a été créé par J.K. Rowling. C'est une série de 7 romans qui a été adaptée en 8 films. Chaque livre va correspondre à une année scolaire des jeunes sorciers. Le premier livre est sorti en 1997 et le dernier en 2007. Et c'est vraiment un phénomène planétaire. C'est des romans qui ont été traduits dans environ 80 langues et vendus à plus de 450 millions d'exemplaires. C'est un univers qui est très, très complet. J.K. Rowling a commencé à s'imaginer l'histoire d'Harry Potter alors qu'elle était âgée de 25 ans. Elle a terminé l'écriture de ce premier livre à 30 ans, vivant dans une précarité avec un jeune enfant à sa charge. Ce premier livre est refusé par plusieurs éditeurs avant qu'une maison d'édition se décide enfin à publier le livre. Harry Potter à l'école des sorciers sera finalement publié le 26 juin 1997. La première édition est de 1000 exemplaires seulement et le livre devient très populaire et la saga d'Harry Potter se poursuit pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Afin de recréer l'univers d'Harry Potter ici à CFLX, j'ai décidé qu'on allait vous choisir chacun une maison et que vous alliez gagner des points pour chaque bonne réponse.
Ah oui?
La maison qui va gagner la coupe des 4 maisons, comme dans les livres et dans les films.
Mais il est où le choix pot magique pour
vous aider à décider?
Je vais mettre mon portefeuille sur la tête.
Merveilleux!
Donc pour ceux qui comprennent absolument rien de ce que je viens de dire, vous allez comprendre mieux tantôt. Il faut juste savoir qu'on suit l'histoire de Harry Potter qui commence durant le premier livre, sa première année à l'école de sorcellerie de Poudlard. Poudlard, donc, c'est l'école pour les jeunes sorciers, c'est un pensionnat, c'est un magnifique château immense avec des tours, un lac, une forêt. Et les élèves sont répartis entre 4 maisons qui accueillent les élèves. On a Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Et dans l'univers, il y a un chapeau magique de sorcier, le Choixpeau magique, qui décide dans quelle maison chaque élève de première année va se retrouver. Comme j'ai pas réussi à trouver de choixpeau magique ici, on va vous laisser décider par vous-même dans quelle maison vous seriez si vous étiez à Poudlard.
Bon.
Donc, les 4 maisons, comme je disais, sont nommées selon les 4 fondateurs de l'école. On a Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard. Donc, je vais vous nommer les qualités requises pour chaque maison afin que vous puissiez faire votre choix.
Moi, je dis que Louis va être Serpentard.
Non. Louis, en fait, là, j'arrête Mélina juste une seconde, parce que sur le site web de la...
Pottermore,
j'ai effectivement fait le test.
Parce ah bon? Que
c'est, écoute, c'est ça, dans la vie, je suis un serdaigle.
Ah ouais?
Ce qui est quand même assez...
C'est les intellectuels, ça.
Les intellectuels, les gens un peu plus rigides, qui ont des attentes d'excellence. Tu sais, ceux qui aiment quand ça fonctionne puis que ça avance.
Exactement.
C'est ça.
Donc, dans les qualités de serdaigle, effectivement, j'ai créativité, érudition, discernement et sagesse. Pour Gryffondor, courage, force d'esprit, hardiesse, tolérance. Poufsouffle, constance, équilibre, patience, loyauté. Serpentard, ambition, ruse, détermination, finesse.
Écoute, malheureusement, j'ai l'impression que je me reconnais plus dans Poufsouffle, dans ce que tu as nommé, mais j'aimerais ça prendre Gryffondor quand même. On a le droit de contester, semble-t-il, puis de choisir sa maison pour être avec ses amis.
Donc, Jim, on va te donner Gryffondor.
Wouhou! On va entendre parler de moi dans tous les livres.
Douchebag.
Et Louis, on y va avec Serdaigle.
Jock.
Moi, je serais clairement aussi dans Serdaigle avec toi. Parce que je suis reconnue pour ma sagesse, mon érudition et mon discernement sans précédent.
Oh mais ton manque de modestie pourrait te mettre dans Serpentard.
Effectivement, effectivement. Peut-être que je suis.
Le verre te va si bien.
Oui, c'est ça. Bon, enfin. OK.
Donc, qui est Harry Potter? Harry Potter, c'est un sorcier orphelin élevé sans affection ni considération par la seule famille vivante qu'il lui reste, son oncle et sa tante Moldu, donc sans pouvoir magique.
Hmm.
Harry découvre son identité de sorcier, son héritage tragique et la responsabilité qui lui revient. Harry est considéré comme le survivant depuis que ses parents, Lily Evans et James Potter, ont été assassinés. Le puissant mage noir Lord Voldemort les a tués 10 ans plus tôt, alors que Harry, qui n'était alors qu'un bébé, est parvenu à échapper de manière très inattendue au sortilège de la mort et à garder une cicatrice en forme d'éclair. Voici la première question pour 20 points. Pourquoi Voldemort a tué les parents de Harry et a essayé de tuer Harry?
Oh mon Dieu, ça c'est loin dans mon souvenir. Par jalousie?
Non.
Ah.
Droit de réplique?
Droit de réplique.
Pour vaincre une prophétie qui prophétisait sa mort.
Oui, exactement. Donc, on donne 20 points à Serre d'Aigle.
Ouais, Serre d'Aigle, ils ont toujours le nez dans les livres, on sait bien.
Donc, lorsque Harry a échappé au sortilège de Voldemort, le sort s'est retourné contre Voldemort, qui s'est donc désintégré. Voldemort va revenir et tenter à nouveau d'avoir le pouvoir, son but ultime étant d'accéder à l'immortalité. Donc, à 11 ans, Harry va rentrer à Poudlard et découvrir le monde des sorciers. Harry va être envoyé à Gryffondor où il va rencontrer ses deux meilleurs amis, Ron Weasley et Hermione Granger. Deuxième question, donc, pour 10 points. Comment Harry et Ron sont-ils devenus amis avec Hermione précisément? Jim?
Est-ce que c'est dans le train?
Non, c'est pas dans le train.
C'est pas dans le train?
Ben, Harry et Ron sont devenus amis là, mais Harry et Ron avec Hermione.
Ah. Bon, ben, droit de réplique à Louis? C'est vraiment désagréable comme
sonnerie. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je vais juste prendre les doigts de réplique, je pense, de Jim, parce que ça a l'air d'être de fonctionner. Dans la file pour attendre le choix pour...
Non plus.
Je sais pas.
Donc, c'est après avoir combattu le troll la journée de l'Halloween.
Ah oui! Okay. Dans la salle de bain.
Oui, dans la salle de bain, parce qu'au début, il n'était pas ami avec Hermione. Hermione, il la traitait de Madame Je sais tout, puis il la niaisait dans son dos.
Avec raison, quand même.
Avec raison, oui.
Et, Hermione aurait dû être dans Serdaigle. Je ne comprends pas pourquoi elle est dans Gryffondor.
Mais pour
le courage face à l'adversité. Oui.
Ah bon, d'accord.
Clairement.
Okay.
Et sa force d'esprit, hardiesse. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus amis en combattant le troll. Donc, l'univers d'Harry Potter est un univers qui est bien complet. J.K. Rowling a pris 5 ans à définir les règles du monde de la magie afin de décider qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce qui se faisait pas en termes de magie dans son univers. Elle a aussi écrit les biographies complètes de ses personnages qui n'ont jamais été publiées. C'était vraiment juste pour elle. Donc, il y a un ministère de la magie, un tribunal, une devise monétaire avec une banque de sorciers. On a 2 journaux, la Gazette du sorcier et le chicaneur. Et même une boisson typique, la bière au beurre. 3e question, donc pour 10 points. Quel est le sport national des sorciers?
Ouais.
Faites un rush papier-ciseaux, là.
OK. Oh, yeah!
Jim!
Alors, juste par principe, dans un 3 de 3, j'ai utilisé la rush 3 fois et Louis a changé pour les ciseaux la 3e fois.
Okay. Hey, la bonne radio de la décision, madame, messieurs.
Incroyable. Donc, excuse-moi, la question est un...
Le sport national.
Le Quidditch.
Exactement, un sport qui se joue sur un balai volant. Donc, il y a 10 points pour Gryffondor.
Oh,
c'est
yeah.
Jamais mentionné, c'est le plat national et la quiche.
Oh boy.
Oh, Louis, tu nous parles une belle blague aujourd'hui.
La Wish Lorraine.
La Wish Lorraine.
Donc,
les sorciers ont évidemment des balais volants pour jouer au Quidditch. Ils ont des baguettes magiques. Et pour lancer des sorts, ils vont associer une formule magique, un mouvement de baguette et la volonté. Donc, 4e question pour 5 points. Nommez-moi un sort et son effet. Louis?
Wingardium Leviosa qui fait lever les choses, la lévitation, en fait.
Exactement! 5 points pour Serre d'Aigle! Les sorciers peuvent également apprendre à lancer des sortilèges sans réciter la formule magique à haute voix. C'est donc un sortilège informulé. Il existe aussi 3 sortilèges impardonnables. Donc, 5e question pour 50 points. Nommez les 3 sortilèges impardonnables, l'aurait fait et le professeur qui a posé cette même question que moi. Louis?
Et sacrifice. Je sais que c'est Remus Lupin qui pose la question.
Non.
Avada Kedavra, qui est le sorcelage qui tue. Stupéfix? Non. Dementio? Non, je sais plus.
Non. Échec.
Écoute, moi je dirais que le professeur est sans doute le vieux monsieur avec l'œil.
Oui. Maugré Folleuil.
Exactement.
Folleuil. Bon, évidemment, comme Louis le disait, il y a le Aveda Kedavra qui en est un. Il y en a trois, c'est ça?
Oui. Qu'est-ce qui est les effets des sortilèges?
Ah, les effets des sortilèges. Je pense que je suis dû pour revoir ou relire les Harry Potter.
Pour revisiter l'univers d'Harry Potter. Donc, on a Avada Kedavra, sortilège qui provoque la mort, comme vous avez dit. Dolores, sortilège qui provoque une douleur intense. Ah, oui. Et Imperium, sortilège qui place la victime sous le contrôle de la personne qui jette le sort. Et c'est effectivement Maugré Folleuil dans le quatrième livre, Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc, malheureusement, vous avez chacun 0 point pour ça, parce que c'était un tout ou rien.
Bon, et quel dommage.
Donc, dans l'univers d'Harry Potter, il y a aussi des plantes, des filtres magiques, des animaux et créatures magiques, et aussi des pouvoirs magiques, mais que ce ne sont pas tous les sorciers qui possèdent. Bref, c'est un univers très complet qui a été décrit dans 7 livres en tout. Donc, 6e question pour 40 points. Il y a 7 livres en tout, c'est donc une... Jim?
Sixtlogie?
Non, droit de réplique.
Heptalogie.
Oui!
Quoi?
40 points pour Louis et pour Cerdain.
Ouais, t'es vraiment un Cerdain, toi.
Donc, Cerdaigle gagne la coupe des 4 maisons.
Puis je connais le thème heptalogie suite à un débat que j'ai eu autour de la meilleure trilogie en 5 livres jamais écrite, qui est de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le Guide Galactique.
Eh bien, je suis fiberglasté, comme diraient certaines personnes dans le domaine de la construction. Mm-hmm. Est-ce que...
Donc, c'était tout pour ce quiz sur Harry Potter. J'espère que ça vous a donné envie de rentrer, d'approfondir cet univers-là, parce que, comme je disais, c'est un univers qui est très complet, très riche, donc c'est impossible pour moi de le décrire dans une si courte période de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de faire plutôt une simulation de Poudlard. Donc, avec ma baguette magique, je vous dis Lumos, on éteint les lumières et cette partie est finie!
Vous avez du tape sur vos lunettes, tant mieux, parce que Cinébrunch, on est des nerds, des geeks, des... Y a-tu d'autres mots pour ces affaires-là? Des sardaigles! Et cette semaine, on vous présente chacun notre univers fantastique, celui dans lequel on voudrait vivre pour fuir notre pitoyable réalité, notre monde cruel, notre... Bon, en tout cas. Mon univers, on va commencer par moi, parce que hein, les choses étant ce qu'elles sont.
Tu serais donc plutôt un serpentard?
Ben, non, quand même pas.
T'es juste un égocentrique. Pas le même.
Ben, carrément. De mon côté, ben, je voulais parler de Kaamelott, mais Louis m'a envoyé une mise en demeure me disant que c'était pas au cinéma et que les séries télé ne comptaient pas. Donc, j'ai pris Star Wars, oui. Donc, l'univers de la guerre des étoiles, l'espace, les créatures étranges, les droïdes qui traduisent, les compacteurs à déchets. En fait, plus j'y pense et moins je suis sûr de vouloir vivre dans ce monde-là. Parce que, à part une poignée d'élus et de Jedi, la plupart du monde vivent la misère, l'esclavage, le crime, la corruption et la guerre. Mais, c'est cool d'être un Jedi. Hein? Ça te cachera pas.
Ouais, mais il y en a un dans l'univers au moment où on se parle. Fait que moi, je suis pas convaincu que...
Ah non, on n'a pas vu l'épisode 8 encore. Donc, c'est cool d'être un Jedi d'en côtoyer un. Mais imaginez comment ça serait pratique pour prendre le canage sur la 3e tablette de l'armoire de cuisine sans se faire un lumbago, pour traverser le fleuve sans pogner le trafic sur le pont, pour convaincre l'employé de la maison du cinéma de mettre plus de beurre dans le popcorn. Il y aurait quand même des avantages.
On peut faire tout ça dans l'univers d'Harry Potter, Jim.
Oui, mais ça prend une baguette. Là, pas besoin. C'est ça la merveille des midi-chloriens. Et le monde idéal, quand ça va trop mal sur une planète, on change de planète. Et comble de merveilles, le sabre laser permet d'accomplir la plupart des tâches de construction avec brio. Quoi, le sablage, les coupes à angle, sans avoir besoin d'outils.
Quoi que c'est un univers parfait pour toi, Jim, où est-ce que le bien et le mal sont clairement définis?
Merci, Louis. Merci de cette condescendance.
Toujours bien.
Star Wars est un univers formidable, rempli de diversité, de folie et de différentes cultures. Star Wars, c'est le Singapour des univers. Il y a des milliers de peuples extraterrestres qui cohabitent. On peut manger des mets chinois et écouter du Dixieland dans un pub dans le désert. L'univers de Star Wars est un monde fantasmagorique et surréel où il fait bon vivre quand on a fait partie de l'aristocratie ou du Conseil des Jedi seulement. Mais Yoda est une inspiration pour nous tous. Immense, l'univers. Hey. Voilà, c'était mon univers. Et toi, Mélina, j'ai comme le feeling et mon index me dit que ton univers fantastique est encore celui d'Harry Potter.
Exactement, donc je m'attarderai pas plus sur le sujet, mais s'il y avait un univers fantastique que je devrais choisir pour vivre dedans, ce serait celui des sorciers, des baguettes magiques, des créatures étranges et du plaisir à Poudlard.
Et Louis, de ton côté, ton univers, toi, je pense que tu es sorti des sentiers battus cette fois.
Ben moi, j'ai décidé que j'allais dans l'absurde. Moi, j'ai décidé que si j'allais pour prendre un univers fantastique, j'allais y aller pour l'univers fantastique dans lequel je voulais vraiment vivre. Celui dans lequel tout le monde est égal parce que tout le monde a accès à des pouvoirs surnaturels. Je voulais un univers fantastique qui vraiment allait me permettre de dépasser mes limites et peut-être rencontrer mes célébrités favorites. De quoi je vous parle? Je vous parle de Rapide et dangereux.
Oh mon Dieu!
Là, là! Oui, là!
C'est pas un univers fantastique!
As-tu vu un film de Rapide et dangereux récemment?
Non.
Non. C'est clairement un univers fantastique. Le moment où tu mets les pieds dans une voiture, toutes les voitures peuvent changer de vitesse jusqu'à la 47e vitesse. Les lois de la physique ne s'appliquent plus à toi. Et peu importe ce que tu fais dans un véhicule automobile, il y a zéro manière que tu meurs. Non seulement ça, mais dès que tu fais une blague, la blague est tout le temps extraordinairement timée. Tout le monde la trouve très drôle, sauf quand t'es le Ludacris, mais ça en partant, t'as mal choisi ta carrière.
C'est comme à l'Assemblée nationale. Continue.
C'est vrai. Il manque une référence là.
Ah ben, tout le monde rit en même temps, tout le monde applaudit en même temps. Tout est parfaitement timé.
C'est ça, c'est exactement ça. Puis moi, j'en reviens à ça là. C'est que encore une fois, un univers où le bien et le mal sont parfaitement déclarés, où est-ce que il suffit d'embarquer dans une voiture le moindrement modifié pour que soudainement des hordes de gens peu habillés, hommes, femmes, enfants, toutes cute, musclées, faciles à regarder, se jettent sur toi et ton véhicule pour t'offrir courses, bières et autres choses agréables de la vie. Fait que pour toutes ces bonnes raisons, mon univers fantastique favori, c'est Rapide et dangereux.
Quand je pense que t'as refusé que je prenne Kaamelott puis tu prends Rapide et dangereux.
Mais en même temps, c'est pas étonnant venant de Louis.
Question thématique, Jib. On est à Cinébrunch, pas à Télébrunch.
Voilà.
Je me vengerai un jour.
Est-ce que vous aimez ça, vous, revisiter vos univers fantastiques favoris durant le temps des fêtes, quand il neige? Moi, c'est un de mes plaisirs de Noël.
Absolument.
Je dois admettre, et là, je fais une confidence sur les ondes. J'haïs Noël pour mourir. Fait que pour moi, c'est effectivement l'occasion de revoir mes univers fantastiques favoris parce que je lis énormément durant le temps des fêtes. C'est là où je revisite absolument mes séries que j'ai préférées. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de lire Millennium, une série de livres suédoise justement.
De Kierkegaard.
Ouais, j'aime mieux pas essayer de prononcer son nom malheureusement. Mais qui je suis rendu au deuxième de Woman Who Kicks the Hornet Nest, qui est effectivement très bon.
Est-ce que tu lis ça dans un lit Ikea?
Non, je suis trop gros pour les Ikea. J'ai déjà testé.
C'est quoi cette question?
Mais c'est pas suédois, Ikea.
Oh!
Oui.
Ok, j'avais pas fait le lien là, franchement. Trop drôle. Ah bien, ben merci. Donc c'était nos univers fantastiques. Louis, qu'est-ce qui s'en vient au cinéma?
Hey, pas grand-chose. C'est une semaine un peu triste.
Ah, c'est décevant.
Mais il y en a un qui va te rendre vraiment heureux.
Bon.
Qui est Noël et compagnie.
Oui.
Rien ne va plus à l'approche du réveillon de Noël. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. Un coup dur pour Santa, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix. Il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Mais, juste là, ça a l'air quand même assez plate. Sauf que...
Alain Chabot!
Film de fans de films français, de comédie, vous connaissez tous Alain Chabot, qui dirige et joue le rôle du Père Noël dans cette comédie qui semble des plus déjantées. Alain Chabot, c'est un monument de la comédie française. Jim ne cesse d'en faire les louanges. On l'a connu, entre autres, avec ainsi qu'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
De très bons films.
D'ailleurs, dans Astérix et Obélix, il jouait le directeur ainsi que Jules César.
Et il joue dans Kaamelott aussi.
Également, le dernier film, parce qu'il y en a rien que deux qui sortent cette semaine, c'est Tadoussac. Chloé, 18 ans, s'enfuit de son appartement de Montréal en plein hiver. Elle fait du pouce jusqu'à Tadoussac, petit village touristique du Québec. En échange d'une chambre, elle travaille à l'auberge de jeunesse de l'endroit, comme beaucoup d'autres jeunes voyageurs. Mais Chloé cherche aussi secrètement à rencontrer sa mère. C'est un film québécois, c'est du réalisateur Martin Laroche. La mère est jouée par Isabelle Blais, qu'on a surtout connue à la télévision pour Blue Moon et Fêtes d'hiver. Ça a l'air vraiment charmant et cute.
Donc, tu n'iras pas le voir.
Et probablement pas.
Non, c'est ça.
Mais c'est aussi la semaine où est-ce que la Maison du cinéma va présenter la mise à mort du cerf sacré, ce qui me fait pas mal plus jouer le bout de poil.
Bon, merveilleux. Ben, merci Louis.
Un plaisir.
Et du coup, de mon côté, en DVD, tu vois, c'est l'inverse. En Blu-ray DVD, ça paraît qu'on est en décembre parce qu'il y a pas mal d'affaires. Détestable moi 3, Grou, alias Raphaël Mercier, apprend qu'il a un frère jumeau. Frère qui lui demande de faire un mauvais coup pour rendre hommage à son défunt père, un super vilain. Oui.
On l'a-tu vu, ça?
Moi, j'ai vu les deux premiers, j'ai pas vu le troisième.
Puis comment t'avais trouvé les deux premiers?
Moi, j'ai beaucoup aimé le premier, en tout cas.
OK.
Ouais. Sage-femme. Claire, sage-femme, va ressurgir Béatrice, l'ex de son père défunt. Visiblement, il y a un contexte avec ça. Et femme qui tente de se rapprocher d'elle, c'est avec Catherine Deneuve et Catherine Froault. Bully Bill 2, j'ai absolument rien à dire là-dessus, à part que ça sort cette semaine. Saviez-vous d'ailleurs que le chat de mon voisin s'appelait Thibault quand j'étais jeune?
Non, on s'en balance.
D'accord. Sinon, Danseuse, un film de danse. Loï ou Loï Fuller est une grande danseuse, mais pas dans les bars. Là. Et Isadora arrive dans le décor et sent que son titre est en péril. Et finalement, le film que nous allons tous acheter en DVD Blu-ray et soit brûlé, soit noyé, Le problème d'infiltration avec Christian Bégin, un drame psychologique qui n'a laissé personne indifférent ni personne d'accord à Cinébrunch. Dans le doute, regardez-le et faites-vous votre propre idée. C'est tout pour les sorties.
Si jamais quelqu'un veut m'offrir un cadeau de Noël d'avance, Le problème d'infiltration serait une addition inestimable à ma collection.
Merci Louis, merci Mélina, c'est déjà la fin de Cinébrunch. On se retrouve samedi prochain, 11h, et d'ici là, rendez-vous sur notre site web, cinébrunch.com, ou en balado-diffusion sur iTunes, Google Play et RZO. Sinon, sur notre Facebook Cinébrunch, Louis.
Oui, on va avoir un concours cette semaine pour gagner 5 paires de billets pour aller voir en première à la Maison du cinéma le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Ça va être le 11 décembre que ça va se passer. C'est un film qui est inspiré du roman homonyme de Pierre Lemaitre, récompensé par le prix Goncourt en 2013. Pour participer, suffit de liker la page Facebook, partager la publication et laisser un commentaire avec qui vous iriez voir le film.
Excellent.
Film qui a de l'air, cela étant dit, très bon.
J'ai pas encore vu la bande-annonce, je vais aller voir ça en arrivant à la maison.
Merci, et on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
Bye.
Au revoir.